MCI TV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour et bienvenue sur le plateau de « Bonjour chez vous ». Aujourd'hui, on aborde un sujet très important, mais très actuel aussi malheureusement. Le divorce existe aussi chez les chrétiens. Et oui, c'est une réalité. Le divorce est autant d'actualité chez les croyants que chez les incroyants. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce thème aujourd'hui, pour pouvoir nous sensibiliser avec Annabelle et Michael. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Donc un thème important aujourd'hui, c'est pas un thème qui est forcément très très drôle, et on n'est pas forcément dans des hautes sphères spirituelles, mais pourtant le mariage est quelque chose de spirituel et c'est un thème important. Et j'aimerais d'emblée juste pouvoir préciser à quel type de couple on va s'adresser tout au long de cette émission. On ne parle pas des couples où il y a de l'abus, de la maltraitance subie par l'un ou l'autre des conjoints, souvent par l'épouse, mais pas toujours. Vraiment, on s'adresse à des couples qui vont mal, des couples qui se disputent énormément, où il y a peut-être du non-pardon, où il y a beaucoup de colère, beaucoup de souffrance et beaucoup de malheur qui se passe. Mais on ne parle pas à des couples qui sont dans des crises à un niveau différent. Et dans ces cas-là, on traiterait le sujet de manière différente. Je ne sais pas si j'ai été claire. Oui.
Oui, mais c'est important de faire ces nuances. Oui. Parce qu'il y a des couples pour qui c'est des situations de mise en danger de vie ou de mort.
Exactement. Donc, on traite la situation complètement différemment. Et aujourd'hui, on va avoir une rubrique « C'est mon histoire » qui est très, très belle. C'est un couple. Un couple qui a divorcé et qui s'est remarié par la grâce de Dieu. Oui, c'est des choses qui sont possibles aussi. Et c'est un très beau témoignage qu'on écoutera donc en milieu d'émission. Pour l'instant, on va commencer avec toi, Annabelle, dans la pensée du jour.
En effet, le mariage, c'est l'idée de Dieu. Et ce que Dieu crée, il le crée pour la vie, il le crée dans la joie, dans la paix, pour que ce soit une source de bonheur. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile, mais en tout cas, il ne crée pas les choses pour pouvoir les détruire par la suite. Et aujourd'hui, malheureusement, bien le divorce est entré aussi dans le monde chrétien, est entré dans l'Église. Et on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, comme si les chrétiens ne souffraient pas dans leur couple, parce que aujourd'hui, les chrétiens, il y a beaucoup de gens chrétiens qui souffrent dans leur couple. Et beaucoup en sont arrivés à la conclusion que le divorce était la solution face aux douleurs, face aux incompréhensions, face au manque d'épanouissement, face aux disputes, se dire mais on n'y arrivera pas. Et quelquefois, ce n'est pas une histoire de manque d'amour, c'est de se dire on n'y arrivera pas. Peut-être que je ne saurai jamais rendre l'autre heureux. Peut-être que moi-même, je n'arriverai jamais à être heureux dans ce couple, dans ce mariage. Peut-être qu'on s'est trompé au début. Il peut y avoir plein de raisonnements, plein de façons de penser qui nous font arriver au fait que le divorce pourrait être la solution. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse ensemble revenir à la pensée de Dieu lorsqu'il a créé le mariage. Ce que lui, il a pensé, parce que la pensée de Dieu n'a pas changé. Le monde change, la société évolue, les philosophies évoluent, etc. Mais Dieu ne change pas et Dieu n'a pas changé d'avis pour le mariage. Alors, on va lire ensemble dans Marc 10. « Mais au commencement de la création, Dieu a fait l'homme et la femme, et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Voilà ce qu'est la pensée de Dieu, résumée de façon très simple. Et lorsque on est en train de se disputer, lorsqu'on est en train de se déchirer, rappelons-nous, le divorce n'est jamais la solution que Dieu a pour notre couple. Dieu veut toujours que notre couple puisse réussir. Dieu veut que notre couple puisse traverser cette saison, puisse traverser cette épreuve. Alors plutôt que de chercher pourquoi, comment est-ce que je peux divorcer, est-ce que Dieu est d'accord avec ce divorce, eh bien je vous encourage à aller devant Dieu et lui dire « Seigneur, si je renonce à cette idée de divorce, montre-moi ce que je dois faire. Montre-moi comment je dois prier pour ce couple. Montre-moi comment je dois encore persévérer. Montre-moi comment je peux encore aimer. » Et je crois que Dieu qui est pour votre couple vous donnera la persévérance, vous donnera la consolation, le réconfort dont vous avez besoin, vous donnera aussi la sagesse Il est capable aussi de faire renaître l'amour là où vous pensez qu'il n'y avait plus d'amour de possible. Il est capable de souffler sur ses braises. Vous n'y voyez plus rien, mais il est capable de souffler et de ranimer une passion dans votre couple, parce que c'est le Dieu du couple, c'est le Dieu du mariage, et il est fidèle à sa parole.
Amen. Merci beaucoup, Annabelle, pour cette pensée qui donne de l'espoir, et on en connaît beaucoup des couples qui étaient vraiment mais à ça du divorce, et on se dit il y a pas d'espoir, il y a plus rien à faire, et Dieu a relevé ces couples, des gens même qu'on côtoie régulièrement dans notre quotidien, sans parler de tous les témoignages qu'on a reçus. Il y a vraiment de l'espoir, et c'est important que vous puissiez oser y croire encore aujourd'hui. Dieu peut encore faire quelque chose dans votre couple. Et chérie, t'as des statistiques intéressantes sur le sujet à nous partager.
Oui. J'ai des statistiques intéressantes, mais j'aimerais juste rebondir sur ce qu'Annabelle a dit, parce que je trouve ça trop fort. Elle a dit qu'au lieu de chercher à réfléchir sur le divorce ne doit pas être la solution, il faut le rayer. Et je crois que c'est vraiment important, parce que quand on considère que divorcer est une possibilité, on s'ouvre à cette possibilité.
Mm-hmm.
Et il y avait ça me fait penser à une anecdote, le fameux roi, qui voulait attaquer, c'est une histoire vraie, voulait attaquer un autre royaume qui était sur une île, et ils y allaient régulièrement en bateau pour faire des batailles, pour remporter contre ce royaume qui lui résistait à chaque fois. Et à chaque fois que les bateaux accostaient et qu'ils se battaient, ils finissaient par perdre et revenir en arrière et faire demi-tour. Et puis il y a eu un nouveau chef de guerre qui a dit, cette fois-ci on va faire autrement. Ils sont allés de nouveau combattre ce royaume contre qui ils perdaient à chaque fois, mais quand ils sont arrivés, ils ont accosté leur bateau, ils ont brûlé leur bateau, ils les ont sabordés. Et du coup, ils ont remporté enfin la victoire contre ce royaume. Et la raison pourquoi, c'est parce qu'ils ont brûlé leur plan B, leur plan de secours, et les gens se sont battus avec l'énergie du désespoir. Mm-hmm. Et c'est cette énergie du désespoir qu'on raye le divorce, mm-hmm, et que c'est pas une solution, il y a plus de sortie, je vais me battre pour mon couple.
Oui.
Et je voulais juste souligner ça, c'est très important. Alors pour les statistiques, devinez quel est le pays avec le plus fort taux de divorce dans le monde.
Les États-Unis ?
Non.
La France ?
La France,
oh,
numéro 1 dans le monde. La France avec 45% de taux de divorce. L'Angleterre en deuxième position avec 42%. Et les États-Unis seulement à 41%. Ensuite, le Qatar à 38%. Les États-Unis, c'est une idée fausse que de dire un couple sur deux divorce aux États-Unis. Mmh. Cette donnée n'est pas vraie.
Mmh.
Et chez les chrétiens, alors on dit que chez les chrétiens, c'est aussi 1 sur 2, et encore une fausse information. Shanti Fedan, chercheuse sociale et auteure formée à Harvard, et le docteur Brad Wilscost, directeur du National Marriage Project. Mon anglais est nul. ils ont fait une étude poussée que le taux de divorce chez les chrétiens pratiquants, mm-hmm, qui vont à l'église, est de 35%. Donc,
okay,
il est quand même important, mais il n'est pas aussi élevé que les autres.
Mm-hmm.
Alors, d'autres statistiques intéressantes, c'est que devinez le métier. Bon, je ne vais pas vous faire deviner, vous ne le trouverez pas. Le métier où il y a le plus fort taux de divorce au monde, c'est les danseurs et les chorégraphes. 43% en France des danseurs et chorégraphes divorcent. Et on comprend pourquoi, je n'ai pas besoin d'aller, mais c'est les tentations. Hein.
Oui.
Ils dansent ensemble, ils sont exposés, hommes, femmes, etc.
Très peu vêtus.
Comme quoi, une des solutions, c'est de connaître ses limites et de ne pas s'exposer à des tentations et avoir des jalons.
Oui.
Alors la plus lourde conséquence, bien sûr, que les statisticiens donnent, c'est bien sûr les enfants, parce que les divorces, c'est les enfants qui subissent les plus lourdes conséquences.
Oui.
1,6 million d'enfants en France vivent aujourd'hui dans des foyers, des familles recomposées, avec 8% des familles françaises qui sont recomposées.
C'est énorme.
Et je vais finir avec les principales raisons des divorces. Alors ça, c'est intéressant. La raison numéro 1 ?
L'adultère ?
Oui, l'infidélité.
Mm-hmm.
C'est la raison que les personnes qui divorcent mentionnent le plus. Et en général, ce sont les femmes qui initient le divorce.
Ah, okay.
Certainement parce qu'il y a eu
l'adultère
du côté de l'homme.
Mm-hmm.
Deuxième raison, avec plus de 10% des demandes de divorce, c'est ce qui mentionne l'incompatibilité, donc l'égoïsme, mauvais caractère, comportement abusif, désaccord. Bon, c'est ça, l'incompatibilité. Troisième raison, l'argent et le travail. Absence d'emploi, dette, etc. Plus de 10% aussi. Et quatrième raison, les beaux-parents.
Ah.
Alors, les spécialistes, ils ont répondu à cette question. Est-ce que ces choses étaient là avant ?
Mm-hmm.
là où il y avait beaucoup moins de divorces dans le passé? La réponse est oui. Alors pourquoi? Comment on peut expliquer cette augmentation considérable du taux de divorce? Et leur réponse, c'est avant le début du XXe siècle, le divorce était une procédure longue et coûteuse et qui était stigmatisée par la société. Divorcer, c'était un sujet de honte. Et on ne divorçait pas parce qu'on était la risée de la société, c'était mal vu. Aujourd'hui, comme la société le tolère, les gens divorcent parce que la société tolère. Mais la grande question, c'est est-ce que c'est l'État qui a instauré le divorce, le mariage? Non, c'est le mariage est initié par Dieu. Donc la grande question, c'est pas qu'est-ce que les sociétés pensent pour prendre ma décision, mais est-ce que Dieu, lui, qu'est-ce qu'il pense, l'auteur du mariage, et est-ce qu'il le tolère?
Effectivement.
Et si on a les yeux bien fixés,
on ne divorcera pas. La réponse, Annabelle l'a donnée sur ce que Dieu pense, puisque tu l'as cité, et c'est notre verset du jour, Matthieu 19 au verset 6, qui nous dit « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Donc bien sûr, cette émission n'a absolument pas pour but de culpabiliser ceux qui ont déjà divorcé, absolument pas, et je crois que vous réglez ça avec Dieu, vous en êtes tout à fait capable. Mais cette émission est plutôt dédiée à tous ces couples qui sont en détresse et qui pensent très sérieusement au divorce, qui sont peut-être même sur le seuil du divorce, de savoir que si Dieu a pu ressusciter Lazare, qui était mort depuis 3 jours et qui commençait déjà à sentir l'odeur de la mort, peut-être votre couple commence à sentir l'odeur de la mort, vous dites l'amour a complètement disparu de notre foyer, eh bien Jésus a pu ressusciter Lazare d'entre les morts alors que ça faisait 3 jours qu'il était dans le tombeau. Alors je crois sincèrement que Dieu peut ressusciter l'amour dans votre couple, l'amour qui paraît complètement mort et complètement flétri dans votre mariage peut être ressuscité de manière surnaturelle, mais ça demande déjà de le vouloir, de laisser Dieu intervenir, mais aussi très souvent, ça demande quand même de marcher sur son orgueil personnel, parce que c'est quand même l'incompatibilité, c'est quelque chose qui ne change pas dans le mariage, tout à coup on n'est plus compatible. Ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même un égoïsme, un désir de vouloir toujours avoir raison qui très souvent en fait crée les grosses disputes dans les mariages, et c'est important de pouvoir marcher un peu sur son orgueil aussi.
Dans les moments de crise, je pense que c'est important de pas se rappeler, c'est important de se rappeler, de laisser Dieu au centre. Et puis quand on souffre, on oublie Dieu parce qu'on se dit moi je souffre. On considère pas trop la souffrance de l'autre, mais on a du mal à considérer la souffrance de Dieu parce que on est en train de s'éloigner de son plan, parce qu'on le considère plus, parce que on a des prières qui sont complètement détournées. Et j'aimerais vous inviter à revenir à cette sainte crainte de Dieu, de se dire en fait, je cherche à faire ce qui toi t'honore, ce qui toi te plaît, et qu'est-ce qui va te plaire. Et quand, si c'est Dieu qui vous parle, ce sera déjà beaucoup plus sûrement facile à accepter que quand c'est l'autre qui nous dit quelque chose, que quand c'est Michael, Yvine ou Annabelle, mais que Dieu puisse vous parler et vous dire qu'est-ce que lui pense de cette situation. Et la crainte de Dieu va nous permettre à nous, quelquefois, de supporter encore un peu plus, d'être patient, de nous humilier, de pardonner. Et la crainte de Dieu aussi, dans d'autres situations, va nous permettre de ne pas utiliser la liberté qu'on a. On ne peut pas divorcer, du coup, je te maltraite, je te parle n'importe comment, parce qu'on ne divorcera pas. Et de ne pas utiliser cette liberté comme un prétexte pour pécher et pour faire le mal. Et je crois que c'est important dans nos couples aujourd'hui de réinstaurer la crainte de Dieu et que ce soit quelque chose qui nous accompagne tous les jours de notre vie. Avoir cette sainte crainte de Dieu dans mon mariage, c'est ce qui va me préserver de l'adultère, c'est ce qui va me préserver des tentations, c'est ce qui va me préserver de l'orgueil, c'est ce qui va me préserver des disputes, de la colère, etc. Parce que avant de voir l'autre en face de moi, je vais considérer Dieu et je vais me dire « Ah non, ça, je ne peux pas me le permettre, en fait. »
Amen, amen. Donc, on va prendre maintenant un instant pour regarder ce très, très beau témoignage de ce couple qui a été complètement restauré dans la rubrique « C'est mon histoire ».
Alors, nous nous retrouvons pour la rubrique « C'est mon histoire » et aujourd'hui, nous recevons un couple, Oli et Jean-Luc. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Bonjour Nadine.
Ça va bien ?
Très bien, merci.
En tout cas, je suis très heureuse de vous avoir sur le plateau aujourd'hui, parce que vous venez raconter une histoire particulière, une histoire d'amour, de divorce et de remariage. Oui, vous avez divorcé, vous êtes remarié. Et on va découvrir votre histoire ensemble. On va d'abord parler de votre arrière-plan, votre contexte familial. Et Oli, je te donne la parole.
Oui, merci Nadine. Alors, qui suis-je ? Alors, je suis née dans une famille de quatre enfants, mmh. d'accord, à Madagascar. Oui. Et à l'âge de 3 ans, mes parents divorcent mmh. et je vais en France avec mon père.
D'accord.
Et là, de la petite dernière, je passe à l'aînée mmh. d'une famille recomposée mmh. Donc de plusieurs enfants. Okay. Et du coup, je traverse mon enfance avec sans ma mère et mmh. cette idée de pas avoir reçu d'amour maternel, mm-hmm. de pas vraiment trouver ma place mm-hmm. Dans cette nouvelle famille. Mm-hmm. Et c'est vrai que voilà, j'ai eu quelques petites difficultés dans l'enfance mm-hmm. Qui m'ont un peu poursuivie jusqu'à l'âge adulte. Et c'est là que je rencontre Jean-Luc.
Oui. Et Jean-Luc qui lui aussi a un arrière-plan.
Voilà, a pensé me rencontrer en pensant que j'étais son prince charmant. Mm-hmm. Que j'allais la délivrer de mm-hmm. cette situation. Mais moi aussi, j'avais mon bagage et mon arrière-plan. Donc moi, je suis né en région parisienne, d'une fratrie de 6 frères et sœurs. Et très tôt, mes parents se sont séparés quand j'étais enfant. Oui, il y a eu plusieurs tensions à la maison. Moi, j'étais enfant, donc j'observais ce qui se passait. Mm-hmm. Ça m'affectait quand même assez fortement. Et puis, mon père a fait plusieurs allers-retours à la maison. Comme on dit, il a eu plusieurs vies. Mmh. Et moi, en tant qu'enfant, je voyais ma mère souffrir, en fait, à travers ce climat un peu de violence aussi qu'il y avait parfois à la maison. Ouais. Et ce qui fait que j'ai très vite, en fait, développé en moi cette envie, en fait, d'avoir une famille idéale.
Oui.
D'avoir une famille où on vit heureux, mmh. les parents sont unis, mmh. on s'aime à la folie. Mmh. Et puis voilà ce qu'on pouvait voir des fois à la télé ou au mmh. cinéma.
Et donc là, vous êtes donc tous les deux avec cet arrière-plan familial. Mmh. Vous allez vous rencontrer.
Oui.
Et est-ce que ça va être le coup de foudre tout de suite ? Comment ça va se passer, votre rencontre ?
Alors, oui, effectivement, on se plaît, on s'apprécie. Mmh. Moi, Jean-Luc, je le vois, enfin, il m'inspire vraiment. Il a l'air de savoir ce qu'il veut. Et moi, je me suis laissée embarquer par cette idée qu'il voulait fonder une famille. Mmh. Il me promettait... vraiment beaucoup de choses qui étaient agréables à entendre, oui. même si moi, je ne rêvais pas particulièrement d'une famille. À ce moment-là, je rêvais mm-hmm. plutôt d'indépendance. Mm-hmm. Du fait de mon arrière-plan, oui. je ne voyais pas trop l'intérêt mm-hmm. d'une famille mm-hmm. à ce moment-là. Mm-hmm. Mais il était tellement convaincu et convaincant que voilà, je me suis laissée embarquer par son rêve.
Par tout ça. Et donc là, vous vous mariez. Et déjà, toi, Jean-Luc, tu avais, dans ton adolescence, ou au début de ton âge adulte, tu avais rencontré le Seigneur.
J'avais rencontré le Seigneur, puisque dans le climat un peu conflictuel entre mes parents, bizarrement, mais c'est le bizarre de Dieu, mm-hmm. le hasard de mm-hmm. Dieu, mon père a pensé bon de déposer ma mère dans une église en pensant que ça allait aller mieux, mm-hmm. que ça allait lui faire du bien. Et du coup, on a grandi dans une église évangélique en région parisienne. Et ma mère s'est beaucoup attachée à la foi. Mm-hmm. Et ce qui fait qu'avec mon grand frère, on a grandi dans l'église, en fait.
D'accord. Et là, quand vous vous mariez, est-ce que c'est tout de suite la lune de miel, tout le monde est bon, tout le monde est gentil, ou c'est on déchante et puis la réalité nous rattrape?
Alors, en effet, donc Jean-Luc m'inspirait beaucoup, mm-hmm. sa famille m'inspirait vraiment, il y avait ce cœur pour Dieu, mm-hmm. et vraiment, moi, j'étais très impactée positivement par cet environnement, mm-hmm. Cette cohésion familiale qu'il y avait. Et c'est vrai que moi, venant d'un milieu où c'était un peu plus compliqué, c'est vrai que, quelque part, c'est comme si j'avais mis Jean-Luc sur un piédestal. Ouais. C'était comme mon sauveur. Oui. Moi, c'est vrai que je suis née dans une famille, j'ai grandi dans une famille qui était plutôt chrétienne de tradition, mm-hmm. mais j'ai toujours eu quand même la possibilité d'aller à l'église, en mm-hmm. fait, mm-hmm. parce que j'ai toujours eu des voisins, mm-hmm. Le clin d'œil de Dieu, c'est que mm-hmm. j'ai toujours eu des voisins qui étaient vraiment en Christ, engagé, ouais. qui m'amenaient à l'église, et donc j'ai connu l'école du dimanche et tout. Okay. Et donc, du coup, quand on rentre dans le mariage, c'est vrai que c'est autre chose de vivre en commun, d'apprendre mm-hmm. à vivre ensemble. Mm-hmm. Il a eu son éducation, j'avais eu la mienne. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment très rapide où vraiment la vie en commun, on voyait tout de suite nos différences, ouais. finalement, mm-hmm. qui ouais. n'étaient pas un problème quand on passait notre oui. phase de fréquentation.
Oui. Et là, dans ces différences, il y a ton caractère aussi.
C'est ça.
C'est toi qui l'as dit.
Mais non, mais tu fais bien de le souligner, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte de l'impact que peut avoir des fois des conflits dans une famille, une structure dysfonctionnelle, une famille dysfonctionnelle. Et ça nous impacte, nous, en tant qu'enfants, et aussi ça impacte notre façon de voir les choses, notre caractère. J'ai un père assez autoritaire. Mm-hmm. J'ai toujours eu un rapport particulier avec mon père, où je le craignais. Et du coup, je pense avoir développé aussi une certaine colère en moi intérieure, mais aussi un manque de confiance en moi, qui fait que quand je suis rentré en relation avec Oli, alors oui, au début, bien sûr, dans l'étape de flirt, où l'amour pardonne tout. et ben, effectivement, mon caractère n'était pas encore palpable ou visible, mon vrai caractère, ma vraie personne. Mais une fois qu'on est rentré dans la relation, après notre mariage, très vite, ma personnalité a repris le dessus. Ouais. Et c'est vrai que je pouvais avoir cette tendance un peu impulsive, parler mal à Oli, un peu colérique.
D'accord.
Mais je ne m'en rendais pas forcément compte.
Ouais, ouais. Et donc, toutes ces difficultés ont fait qu'à un moment donné, il y a eu des casseurs, il y a eu des séparations, il y a eu des difficultés.
Tout à fait. En fait, moi, j'avais déjà eu cette impression d'avoir subi une partie de mon enfance.
Oui.
Voilà, moi j'ai toujours été une enfant plutôt docile, hein, qui cherche pas le conflit et qui veut faire plaisir et du coup bon bah il s'avère que mon style à moi a fait que bah oui j'ai eu quelques abus déjà quand j'étais enfant, donc du coup Jean-Luc, dans notre phase de fréquentation, je me dis waouh, le gars il va à l'église, sa famille elle est super soudée et tout. Et là on rentre dans le mariage et je me rends compte qu'il y a une petite différence en fait entre ce que je pensais et ce qu'il y avait. Ouais. Et c'est vrai que très rapidement en fait j'ai pas supporté.
Ouais.
J'ai pas supporté. J'avais pas forcément les mots pour m'affirmer à ce moment-là, mais c'est vrai que les réflexes que j'avais en fait, c'était de partir. Je ne voulais plus subir, en fait.
Ouais.
Et donc, je me suis dit, je ne me marie pas, en fait, pour subir. Subir. Mmh. Et donc, c'est pour ça que dans notre mariage, en fait, il y a eu plusieurs épisodes de séparation jusqu'au divorce.
Jusqu'au divorce.
Ouais.
Et toi, Jean-Luc, comment tu vivais ça, ces différentes séparations?
Alors, en fait, juste pour revenir un petit peu juste avant. Moi, je te disais que j'avais idéalisé le mariage. Et pour moi, c'était comme une quête, en fait, de vivre cette vie que je n'avais pas vécue en tant qu'enfant. Et donc, une fois que je m'étais mariée avec Oli, j'avais atteint mon objectif. Et quand tu as atteint ton objectif, et ben là, tu te relâches. Et puis, tu pars en quête d'autres choses. Mais c'est là où les problèmes ont commencé, finalement. En fait, c'était assez difficile à vivre. L'ascenseur émotionnel, j'ai dit adieu, merci. Et je l'ai expérimenté. Parce que de 2001, notre année de mariage, jusqu'en 2009, on s'est séparés 4 fois. Et séparation, c'est-à-dire que Oli prend ses affaires, ses bagages, quitte la maison, reprend son appartement. Et on a eu 2 enfants entre-temps, donc c'était aussi assez difficile à vivre. Mais quelque part, 6 mois après, on se retrouvait. Séparation, on se retrouve. Séparation, on se retrouve. Séparation, on se retrouve. Séparation, on se retrouve. Je l'ai dit 4 fois, parce qu'on s'est séparés 4 fois.
Mais parce que vous vous, vous aimiez. Vous vous aimiez.
La réalité, mais c'est qu'il y avait de l'amour. J'aimais Jean-Luc. J'aimais moins. Voilà la façon.
C'était la gestion, en fait.
Dont il gérait, en fait, notre communication, en fait. C'était de ça dont il s'agissait. Parce que c'est vrai que même moi, je me questionnais pourquoi à chaque fois je reviens. Si finalement. Donc c'était pas vraiment le sujet, c'était pas le fait de pas s'aimer. C'est que je n'aimais pas la façon dont on communiquait.
C'est ça. Et là, donc là, vous avez ces séparations multiples. Tu dis qu'il y a ascenseur émotionnel. Dans tout ça, il y a Dieu. Comment tu fais appel à Dieu? Comment tu cries à Dieu? Tu me parlais d'un épisode où tu es dans ta voiture et tu pleures.
C'est ça. Et tu vois, rien qu'en t'en reparlant, je me remets un peu dans la scène. Il y a des émotions qui reviennent. Mais c'est vrai que je disais à Dieu, mais je ne comprends pas. Le mariage, c'est toi qui l'as instauré dès la Genèse. Tu sais que je t'aime, je te sers, etc. Tu m'as donné une femme. Et voilà, tout mon monde s'écroule. Et donc, ces moments, effectivement, c'était très dur. Mais une de mes plus grandes douleurs, c'est de voir mon fils aîné, en fait, subir un peu cette situation et de le voir souffrir, en fait. Et il exprimait sa souffrance quand même de façon assez prononcée.
Oui, c'était...
Il faisait des crises de pleurs, crises de nerfs. Et c'était compliqué pour moi à vivre en tant que mari, mais en tant que père aussi. De voir ses enfants, finalement, peut-être subir ce que moi, j'ai vécu. Et j'en étais arrivé à me dire que finalement, c'est comme ça. C'est que j'ai subi ça en tant qu'enfant, mes enfants vont subir ça, et puis on fera une famille recomposée, et puis c'est le plan comme ça. Enfin,
et là, tu as crié à Dieu. Et ouais. Dieu répond un soir, comme ça, où tu dois aller voir au lit pour des papiers administratifs.
C'est ça. Et j'aime ce verset qui dit « Fais de l'Éternel tes délices. Mm-hmm. » Et il te donnera ce que ton cœur désire. Yeah. Et j'aime bien la deuxième partie, c'est « Mets en lui ta confiance et il agira. » Donc j'ai prié Dieu. Mais à un moment donné, j'avais baissé les armes. J'ai dit « Dieu, si ta volonté soit faite, si je dois rester au lit, ça se fera. Sinon. » Mm-hmm. Et donc un soir, je passe voir au lit pour des... Donc là, on avait divorcé en 2009. En octobre 2009, on a divorcé.
Ouais. Ça datait de 15 jours. 15 jours
voilà,
après.
15 jours après, le divorce est finalisé.
Voilà.
C'est ça. Et donc, je passe voir au lit pour des démarches administratives, en fait, hein, par rapport aux enfants, notamment. Et puis, au lit, je laisse...
Et en fait, à ce moment-là, en fait, donc, c'est 15 jours après le divorce. Ouais. Moi, je suis au bout de ma vie.
Oui.
Je pense que j'ai vécu comme une certaine dépression après le divorce. Alors qu'avant ça, Dieu m'avait laissé tranquille. Mmh. Il m'avait laissé faire toutes mes démarches parce que j'avais une pseudo-paix avant le divorce, en fait. Mm-hmm. Mais dès que ça a été prononcé, en fait, il y a eu comme un échange d'émotions entre Jean-Luc et moi. Mm-hmm. Parce qu'avant le divorce, Jean-Luc, il était vraiment dépité, triste, tout ça. Et moi, je n'avais plus d'émotions. Oui. J'avais plus de larmes qui sortaient. Mm-hmm. Je me souviens d'une fois où Jean-Luc ramène le pasteur à la maison avant le divorce pour essayer d'arranger la situation, forcément, parce qu'on est quand même accompagné. Et là, en fait, Jean-Luc pleure devant le pasteur et moi, je suis... cette idée de... J'avais le cœur endurci, vraiment, en fait. Ouais. Et quand il vient à l'improviste, 15 jours après le divorce, moi, j'évite de le croiser parce que je vois ce que je ressens et je ne comprends pas pourquoi j'ai l'impression de m'être trompée, ou en tout cas, je sens dans mon cœur que je ne suis pas alignée en fait, avec ce que Dieu veut et ce qui se passe. Mais l'orgueil, forcément, est là et je ne voulais pas le voir. Et donc, il vient à l'improviste me faire signer des papiers administratifs. C'est l'heure du dîner. Mes émotions, elles sont quand même... vraiment, elles sont à l'intérieur, mais elles sont prêtes à être relâchées. Les larmes que j'avais laissées de côté, elles étaient prêtes à bien descendre. Et en fait, j'étais un peu paniquée parce que mon fils demande « Est-ce que papa, il peut rester manger ?» Moi, je n'ai pas l'énergie pour argumenter. Je fais « Ok, il peut rester manger. » Ensuite, c'est l'heure de se coucher. J'appréhende que mon fils fasse une petite crise à l'idée que son père n'allait pas rester. Oui. Mais il va se coucher tranquillement avec son petit frère Ethan. Ils vont se coucher tranquillement, ils ne disent rien. Comme si de rien. Mm-hmm. Ensuite, j'attends que Jean-Luc parte. Mm-hmm. Bon, il prend quelques petites habitudes. C'est l'heure du journal télé. Si ça ne te dérange pas, je regarde le journal télé. Okay. Je fais oui, vas-y. Et je vais faire ma vaisselle. Et là, pendant que je fais ma vaisselle, je commence à pleurer. Oh. Je suis dos à lui, donc il ne me voit pas. Ouais. Mais là, en fait, les vannes, elles tombent. Je n'arrive plus à m'arrêter. Et là, j'espère qu'il parte sans rien demander. Et au moment de partir... Il a l'impression qu'elle dure un peu longtemps, ma vaisselle. Ouais. Et il me dit, bon, j'y vais, au revoir. Alors je fais... Et puis à un moment donné, il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis finalement, je me retourne. Et puis là, il voit que je pleure. Ouais. Et je pleure encore plus parce qu'il me voit pleurer.
Ouais.
Et puis du coup, il se met à pleurer.
Ouais. Et, là,
et puis du
un
coup, on se met à pleurer ensemble.
Vécu, en
les hommes peuvent pleurer.
Vous avez pleuré et c'était...
Et là, en fait, à partir de là, on s'est dit, si on pleure encore pour notre histoire, c'est que c'est pas fini, en fait.
Ouais.
Et là, c'est là que vraiment il s'est passé ce moment de restauration vraiment miraculeux. Parce que moi, j'avais quand même encore mon petit égo. Mm-hmm. Lui, je pense qu'il y croyait plus, mais bon, voilà. Ouais.
J'avais toujours un petit espoir au fond de mon cœur, tu vois, mais Dieu m'a montré que c'est le Dieu de l'impossible. Et ce n'est pas parce que l'homme ou la décision dit que c'est fini que l'histoire est finie, en fait.
Mais tu avais lâché prise quand même.
Ouais, j'avais lâché prise, mais en même temps, pendant toute cette expérience que j'ai vécue, nos différentes séparations, je suis passé aussi par beaucoup de sentiments de haine, de colère, d'amertume que j'ai développé envers Oli, tu vois, de nous faire subir ça. Oui. Et puis là, tout est tombé. Ce soir-là, tout est tombé. Voilà.
Et on a prié ensemble, on s'est demandé pardon, on a demandé pardon à Dieu. Pas plus, en fait, on n'est pas resté sur de longs discours. Ouais. Et là, à partir de là, en fait, on savait que notre histoire n'était pas finie tant que Dieu n'avait pas dit stop. Et Dieu n'avait absolument pas dit stop.
Non, il n'a pas dit stop.
Et depuis, nous voici. Et entre-temps, on a eu deux autres enfants. Mm-hmm. Donc, une famille.
Donc, une belle famille de quatre. On va voir les photos. Belle famille de quatre enfants. Et là, aujourd'hui, à travers votre histoire aussi, vous encouragez d'autres couples. Et vraiment, moi, je vous remercie. Comme je vous disais avant le début de l'émission, c'est un témoignage qui est fort parce que tellement de couples chrétiens vivent des difficultés et ne savent pas vers qui se tourner, où la honte et l'amertume, la colère, l'ego, tout ça vient, vient les fragiliser. L'ennemi est là pour diviser. Donc, vraiment, merci d'avoir pris votre courage de nous partager cette histoire de votre vie qui, je crois, va encourager tellement de personnes. Merci
Avec
beaucoup.
Avec plaisir, Nadine.
Merci
beaucoup, Nadine, pour ton invitation.
Vraiment un beau témoignage. Merci Seigneur qui a restauré ce couple. Bien sûr, ils se sont remariés, ils ne l'ont pas dit, mais c'était le titre. Vous l'aurez bien compris.
Oui, et j'aurais voulu dire un verset important qui me vient sur le cœur par rapport, encore une fois, j'ai trouvé super ce qu'Annabelle a dit parce que je crois vraiment, parfois on parle tellement que c'est difficile à retenir ce qu'il faut, à retenir la chose importante, mais ce qu'elle a dit, c'est que le divorce n'est pas la solution. Il faut craindre Dieu, il faut se battre pour son mariage. Et je veux vous encourager, je sais que ce n'est pas facile, mais honorer le mariage, c'est honorer celui qui l'a institué. Honorer le mariage, c'est honorer Dieu. Choisir de ne pas divorcer, c'est craindre Dieu, c'est marcher dans la crainte de Dieu. Mmh. Et Dieu, la Bible dit clairement, sauf pour cas d'infidélité, le divorce est un péché. Mmh. Et c'est un péché. Si on craint Dieu, on ne veut pas pécher. C'est la raison pour laquelle Christ est mort pour nous, pour pardonner nos péchés. Et j'aimerais vous donner ce verset Hébreux au chapitre 12. Je vais lire dans la version Summer. Vous n'avez pas encore résisté au péché jusqu'à la mort dans votre lutte contre le péché. Vous n'avez pas résisté jusqu'à la mort. La version Second 21 dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat pour le péché. Et j'aimerais encourager quelqu'un. Tu es tenté à divorcer, mais c'est un péché. Résiste jusqu'au bout face au péché, pour honorer ton Dieu, craindre Dieu, et bats-toi pour ton couple, les choses vont changer.
Mmh. Amen, amen. En tout cas, merci à tous les deux pour cette émission qui, j'espère, vous a redonné de l'espoir. Et je veux finir avec une mini parenthèse. Si Dieu ne veut pas que vous divorciez, il veut que vous restiez mariés, mais il veut que vous soyez heureux. Mmh. Donc, pas malheureux, mariés, mais heureux et mariés. C'est le plan de Dieu et c'est ce qu'il peut accomplir dans votre couple. Il y aurait tellement de choses à dire encore sur ce sujet, mais on en a parlé dans d'autres émissions. Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez faire des recherches sur le site emcitv.com. Il y a de beaux témoignages, également celui de Jessica et Sylvain qui nous ont raconté comment Dieu a restauré leur couple, qu'on vous recommande dans la rubrique C'est mon histoire. En tout cas, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais que Dieu vous fortifie et ne lâchez pas et faites confiance à Dieu, il peut restaurer votre couple. Allez, bon week-end et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.